Libin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Dans nos ribines au fil de l'eau cette semaine, on fait la connaissance d'Aurore Colliou, qui est illustratrice spécialisée dans la botanique et le dessin naturaliste. Elle vit d'ailleurs à la campagne à Anvec. Depuis 7 ans, elle plonge son art dans la nature et elle expose en ce moment à la maison de la rivière de Sizun. Allez, on embarque.
J'ai suivi une école des beaux-arts, celle de Quimper. Et en parallèle, je m'intéressais déjà pas mal aux plantes et j'ai eu envie d'en savoir un peu plus parce que toute seule, j'arrivais plus à assouvir ma curiosité. J'ai ressenti le besoin d'être plus cadrée et du coup, j'ai fait une formation d'herboriste. Et dans le cadre de cette formation d'herboristerie, là, j'ai rencontré tout simplement l'illustration botanique d'abord. Et puis, j'ai commencé toute seule et au fil des dessins, je ne me suis plus arrêtée.
Parce qu'en fait, pour faire de l'illustration, enfin botanique notamment, mais même des animaux, parfois il faut des connaissances biologiques. Enfin, il faut aussi faire de la biologie, non ?
Ah bah tout à fait. Mais de toute façon, le dessin d'observation, c'est vraiment un super système d'apprentissage. Quand on a une plante devant soi et qu'on l'observe pendant des heures, on la connaît bien après. Et toutes ses parties, oui.
Et par exemple, sur une plante, combien de temps vous mettez à faire un dessin d'illustration ?
Donc un dessin format 4, ça prend plusieurs heures, parfois une journée. Selon les plantes qui ont des difficultés différentes à représenter. Après, j'ai des très grands dessins format raisin, et là, c'est plusieurs jours de travail.
Et les animaux, là, par exemple, il y a une magnifique, je crois que c'est une libellule, une demoiselle. C'est une demoiselle, peut-être, non ?
C'est la nymphe de feu. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle est rouge.
Et donc, celle-ci, vous ne l'avez pas immobilisée, alors vous avez travaillé sur photo, comment vous avez fait ?
Ouais, alors du coup, pour les plantes, c'est vrai que dès que c'est possible, je privilégie vraiment de travailler de visu, quoi, avec le vivant. Et par contre, pour les dessins d'animaux, comme c'est du dessin vraiment de patience et qui demande beaucoup de temps, évidemment, ils ne posent pas pour moi. Et donc, dans ce cas-là, je fais beaucoup de recherches d'images et je travaille avec des banques d'images différentes. Voilà, et du coup, c'est de l'observation d'après plusieurs photos. Pour avoir des détails à la fois, si c'est un oiseau, du plumage, de la tête, du bec, des pattes. Donc, je travaille avec beaucoup de détails de photos et après, j'essaye de faire mon image à moi, quoi.
Ah ouais, des gros plans, quoi. Ouais.
Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, le travail d'illustrateur naturaliste a encore bien sa place, même à l'ère du numérique, parce que l'illustrateur va mettre en évidence toutes les caractéristiques de l'espèce. Il va pouvoir représenter l'espèce à la fois en gros plan, mais aussi de façon générale, et puis vraiment mettre en évidence tout ce qu'il faut pour la reconnaître.
C'est ça, ça reste un dessin documentaire en fait, c'est ça, on peut dire ça. Hein.
Oui aussi, et puis là dans le cadre de ce travail, tant qu'à faire, autant le représenter de façon esthétique, donc c'est une dimension quand même artistique aussi.
Ouais, bien sûr. Et quand vous ne travaillez pas pour la Maison de la Rivière, vous travaillez pour qui ? Vous faites des manuels ?
Alors là, je ne travaille pas pour la Maison de la Rivière, c'est une rencontre, puisqu'on est voisins et qu'on travaille sur les mêmes thématiques, ça pouvait être intéressant de croiser nos travaux. Mais par ailleurs, mon travail, il va s'agir d'illustrer des flores, des dépliants, des panneaux de signalétique dans des sites remarquables. Il y a du travail, oui, ça va.
Donc l'expo que vous présentez à la Maison de la Rivière, donc, qui est de votre fête, comment est-ce que vous êtes accordé avec la Maison de la Rivière pour présenter quoi ?
En fait, on a défini un petit peu les thématiques et les enjeux d'ici du site de la Maison de la Rivière. Donc la thématique première, c'est la vallée des Lornes. Et ensuite, avec les animateurs, on a eu un échange autour du public qui fréquentait ici la Maison de la Rivière. Et il s'avère que c'est surtout un public scolaire. Et du coup, j'avais assez envie d'avoir aussi une approche littéraire avec le travail, et je me suis rappelée d'un livre que j'avais lu moi enfant, qui est un livre d'Henri Bosco, L'enfant et la rivière, justement. Et l'exposition emprunte son titre.
Ces lieux uniquement sonores, et les plantes des eaux s'éveillant du silence, pliées par le souffle, bruissaient doucement. La barque ne remuait pas. Comme un flotteur de liège, elle paraissait si légère qu'à peine tenait-elle à l'eau. Dès lors, nous menâmes une vie passionnante. Nous avions dans nos mains la nourriture.
Ben, moi, quand j'étais enfant, c'est un livre, enfin c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée, qui m'a vraiment plu. Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Pasquale et qui vit dans la campagne, pas très loin d'une grande rivière très puissante, dont l'accès lui est interdit par ses parents, puisque comme elle est puissante, elle peut être aussi dangereuse. Seulement, cette rivière l'attire énormément et un jour, il a la possibilité de s'y échapper. Et de là, il va vivre une aventure sur l'eau. Il va rencontrer un ami et ils vont vivre à bord d'une barque pendant des semaines, ces deux enfants seuls. Et là, ils vont apprendre, ben, ils vont pêcher, ils vont faire du feu. J'ai choisi ce livre aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont exprimées dans ce livre-là, à savoir la connexion, voire la reconnexion avec notre environnement naturel. Et de montrer qu'il n'y a pas la nature d'un côté et les êtres humains de l'autre. C'est vraiment, nous sommes des êtres de nature et... Et c'est pas séparé. Dans ce livre-là, je trouve que ça exprime assez bien cette réalité-là.
Et vous-même, de toute façon, vous êtes tout le temps immergé dans la nature, en fait.
Oui. Mais c'est vrai que l'exposition, elle est vraiment conçue comme une invitation au voyage et à la promenade, d'où son titre aussi, Promenade le long de la vallée des Lornes. Et il s'avère que quand je dessine, c'est vraiment un voyage. Quand je dessine une espèce, je me rends compte pas tout de suite de toutes ces infinités de détails, c'est vraiment en l'observant, en passant du temps à observer, que ce soit la plante ou l'animal à travers les photographies, que je voyage et que je rencontre vraiment la plante ou l'animal. Voilà. Mais on peut la suivre.
Comme ça, en plein soleil, je remonte à ma manière, tout là-haut dans les nuages, comme pour faire un grand voyage.
Bruit de forêt, chant des oiseaux. Méditation près d'une rivière.
Pour petits et grands, bienvenue à votre espace.
Il s'agit d'une installation à la fois artistique et naturaliste qui présente une quarantaine d'aquarelles d'une partie de la faune et la flore de la vallée de l'Élorne. Ensuite, il y a une barque d'1,50 m dans l'espace, dans la salle, posée au sol, qui a été vannée en branches de noisetier et de saule. Cette barque navigue sur une rivière de papier qui représente ou qui symbolise l'Élorne avec ses méandres. De part et d'autre de cette rivière de papier, il y a 17 poteries qui ont été façonnées et gravées à la main. Et sur ces poteries ont été gravés des animaux et des plantes qu'on retrouve sur la vallée. Et ces poteries sont posées sur des ronds de miroirs qui rappellent un peu les reflets de l'eau, mais aussi en rond pour rappeler les orbes, c'est-à-dire que fait l'eau quand une chose tombe dans l'eau. Et ces poteries accueillent des plantes du bord des eaux.
Prenez le temps de naviguer dans cette rivière, lentement, doucement.
L'exposition nous invite au voyage à travers, au fil de l'eau et au fil des dessins, à travers la symbolique de la barque qui est au milieu. Donc, promenade le long de la vallée de l'Élorne. Donc, l'Élorne, c'est une grande rivière tout près de chez nous et qui traverse beaucoup de paysages différents. Et les aquarelles sont organisées selon ces biotopes, selon ces paysages. Donc, on commence dans un endroit où nous avons l'Élorne prend sa source. Dans une tourbière, dans les monts d'Arrée. Au début, il y a 4 petits ruisseaux qui se rencontrent et qui forment une rivière, qui est l'Élorne, et c'est sa naissance. Et l'Élorne, dans son voyage à travers les tourbières, eh bien, elle va rencontrer des droséras, des libellules, de la mousse qui est constituante de tourbières qui s'appelle la sphaigne, des orchidées, etc. Ensuite, elle va continuer son chemin et on va passer par derrière sur l'autre mur. Elle va arriver dans des landes. Alors dans les landes, ben, ce qu'on trouve majoritairement, ce sont les ajoncs. Il y a aussi des bruyères. Ici, dans l'exposition, c'est la calune qui a été représentée. Dans les landes, on trouve également une chauve-souris. Et celle-ci qui est représentée ici, c'est la grande rhinolophe. Ensuite, on continue le voyage de la rivière et elle se jette dans le lac du Drennec. Donc on va retrouver là encore d'autres types de libellules, des plantes d'eau, le martin pêcheur, un ragondin, la loutre, la truite, les sarcelles. Les sarcelles, ce sont des canards. Ils sont vraiment très beaux. Ils ont, enfin, moi, j'aime beaucoup. Ils ont un côté un peu japonais, je trouve.
C'est vrai.
Et ça, c'est le potamo nageant. Bon, c'est une plante qui nageant, bah, qui est sur l'eau, qui a des grandes feuilles.
Ah ouais, elle flotte, un peu comme
et
un nénuphar.
Qui est flottante, voilà. Ouais, c'est ça. On arrive sur, dans la forêt du bord des eaux. Et dans la forêt du bord des eaux, eh ben, qu'est-ce qu'on peut rencontrer ? On peut rencontrer des martres, l'escargot de Quimper.
Ah oui, il n'est pas que à Quimper alors ?
Non, il n'est pas que à Quimper. Il porte ce nom-là parce qu'il a été rencontré, découvert la première fois près de Quimper. Donc voilà, on lui a donné ce nom-là. En fait, c'est un escargot qui est différent de l'escargot qu'on voit habituellement, qui a une coquille très assez volumineuse et ronde. L'escargot de Quimper, lui, c'est plutôt aplati. Voilà, sa coquille est assez fine. Après, dans la forêt du bord des eaux, on rencontre des arbres, évidemment. Donc les arbres majoritaires qui poussent dans la rivière, ce sont les aulnes et les saules. Et ici, eh bien, on est en face d'une planche où sont, sur laquelle est représenté des oiseaux qui sont les tarins des aulnes. Alors ces oiseaux-là, ils portent ce nom-là puisque ils se nourrissent du fruit de l'aulne. Et je vais vous raconter quelque chose sur l'aulne. C'est un arbre vraiment magique qui a une caractéristique. Il est en capacité de capter l'azote de l'air pour le restituer au niveau du sol. Donc c'est un arbre vraiment nourricier et qui va en même temps aussi structurer la berge et permettre à la rivière de passer tranquillement.
Et de ne pas s'écrouler.
Et de ne pas s'écrouler, c'est ça. Voilà.
D'accord. Et, à quoi ressemblent les fruits que mange le tarin des aulnes ?
Alors, les fruits du tarin des aulnes, bah, ce sont des tout petits cônes qui font quelques centimètres. Ils sont assez petits et bruns.
Ah,
comme des pommes de pin, mais miniatures.
Ah, après, un dessin différent.
Voilà. Alors, dans la forêt du bord des eaux, peut-être qu'on peut rencontrer des enfants. Donc, il y a, au cours de l'exposition, c'est vrai que j'ai parlé de faune et de flore, mais il y a quelques dessins représentant des enfants jouant au bord de l'eau. Et là, nous sommes devant une peinture en format raisin qui représente deux petites filles qui sont sur une balançoire et qui sont à leur côté un adulte, leur papa sans doute. Et la balançoire sur laquelle elles se balancent est accrochée à une grande branche d'arbre et au-dessus d'une rivière qui n'est pas profonde, hein, c'est pas dangereux, mais voilà, en tout cas, c'est très amusant de se balancer au-dessus de l'eau.
Elle existe cette balançoire ou
elle
vous l'avez inventée ?
Non, non, elle existe vraiment, ce sont mes enfants.
Écoute-moi, écoute cette histoire-là.
Dans la forêt du bord des eaux, on rencontre une magnifique fougère qui est l'osmonde royale. J'aime beaucoup les fougères, d'une part parce que dans le début de notre planète, c'était une des premières plantes à avoir colonisé et elles étaient plutôt arborescentes. Et nous, dans nos régions, on n'en a plus que des petites, mais l'osmonde, elle est encore vraiment assez grande. Et des grandes, des arborescentes, il en existe encore en Amérique. Peut-être que si on se balade dans la forêt du bord des eaux la nuit, on pourrait entendre la chouette, la hulotte. Et ici, on peut l'observer.
Et le son les bandes-sons qu'il y aura, en fait, elles sont en rapport avec les animaux ou c'est autre chose ?
Alors, oui, alors dans les bandes-sons, on a en fait des... J'ai été rencontrer pas mal de personnes qui ont des histoires, qui avaient des histoires à raconter sur la nature, les animaux de la nature, donc, et aussi des légendes des Mondaris. On entend aussi les bruits des écoulements d'eau, des oiseaux, le bruit du vent, le son du vent dans les feuilles, etc. Après, on n'entend pas d'animaux particulièrement, mais en tout cas, c'est plus une ambiance.
Toto le crapaud. Deux beaux yeux d'or, un corps trapu, plein de verrues, c'est Toto le crapaud. Il vivait dans un talus, s'abritant sous terre par temps sec. Son menu préféré était les limaces aux vers de terre et quelques insectes en dessert. Par une nuit de février, il partit. Je vais retrouver mes amis. C'est ainsi que Toto marcha tranquillement, d'un bon pas, tout droit. Pour retrouver le lieu de rendez-vous, la flaque d'eau la plus proche, Il peut compter sur son flair. Soudain, un bruit. Peut-être un prédateur affamé? Un blaireau? Une couleuvre? Toto se tassa sur le sol et resta sans bouger. Le bruit s'éloigna. Ouf! Même s'il n'a pas très bon goût et que les gourmands regrettent vite de l'avoir croqué, les animaux ont faim après le sommeil de l'hiver. « Je me rapproche », pensa Toto après quelques heures de marche. « Mais quel est cet endroit jauni où plus rien ne vit ? Quelqu'un a répandu un produit. Vite, la zone est polluée. Il ne faut pas rester là ou je vais finir cramoisi, tout moisi. » Pour Toto qui respire par la peau, pas question de toucher du poison. Au sortir d'un champ, le sol devient très chaud. Un bruit infernal vient déchirer le silence de la nuit. C'est une route. Comme à son habitude, Toto s'aplatit et attendit que le bruit s'éloigne. C'est alors que deux mains chaudes le saisirent. Comme par magie, Toto arriva sans effort de l'autre côté de la route. Quelle chance ! C'est un miracle ! Au cœur de la nuit, Toto les vit enfin, ses copains. C'est la fête ! Tout le monde se retrouva dans la joie et la bonne humeur. Quand enfin, il rencontra la plus belle des crapaudes, Toto est amoureux. Depuis ce jour, Toto est le prince charmant le plus connu du monde entier.
Là, on va changer de paysage maintenant. On arrive dans la prairie humide. Alors, dans les prairies humides, on a la bergeronnette des ruisseaux. Alors, j'ai envie de raconter un petit peu l'histoire d'un dessin là, qui représente la bergeronnette des ruisseaux. Donc, je disais tout à l'heure que ma façon de faire pour les animaux, puisque je passe beaucoup de temps à dessiner, je travaille d'après une banque d'images. Et il se trouvait qu'un jour, j'avais programmé de dessiner la bergeronnette des ruisseaux. C'était un jeudi et mon ordinateur a planté. Je me suis dit, zut, comment est-ce que je vais faire pour la dessiner ? Bon, un peu désemparée, je me suis mise à chercher autre chose à faire. J'avais d'autres choses à faire, donc j'ai commencé. Et à un moment, j'ai vu mon chat roux s'approcher de moi, me regarder dans les yeux. Et sur ses moustaches, il y avait une petite plume grise et jaune. Je suis sortie dehors, et dehors, sur le sol, à l'entrée de ma maison, eh bien, il y avait une bergeronnette des ruisseaux. Et des bergeronnettes des ruisseaux, il y en a plein d'espèces. Hein. Et dans mon jardin, j'en vois jamais. Je vois plutôt des animaux de jardin, des oiseaux de jardin, c'est-à-dire des merles et des rouges-gorges. Mais la bergeronnette des ruisseaux, je l'avais encore jamais rencontrée. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de gronder mon chat. Et puis après, je me suis dit, oh mince, je peux pas quand même dessiner un oiseau mort. Je préfère les dessiner quand ils ont l'air vivants. Et puis, chemin faisant dans mon esprit, je me suis dit que c'était un cadeau finalement. Et qu'il fallait que je l'honore. Et alors, du coup, je me suis installée devant cette petite bergeronnette et je l'ai installée sur des herbes et des pissenlits et puis je l'ai redessinée. Donc, c'est pour ça que c'est le seul dessin qui représente un oiseau endormi. Voilà, dans la prairie du bord des eaux, on va encore rencontrer d'autres libellules. La cardamine, qui est une petite plante à fleurs roses. Elle est ici et elle fleurit au printemps, au mois d'avril. Et c'est une très bonne plante alimentaire qui est très riche en vitamine C. On peut consommer ses feuilles en rosette.
Et ça a quel goût ?
C'est frais, c'est pas très fort, enfin... C'est délicat à mélanger en salade.
Et alors, vous ne dessinez pas toujours que des dessins naturalistes, en fait. Quand c'est des grands formats, il y a aussi, vous prenez des libertés.
Oui, alors, donc là, nous sommes en face d'une peinture d'1,70 m de long et qui a été réalisée avec un petit groupe de jeunes de 5 à 13 ans. Et donc, c'est une proposition plutôt de la rivière imaginaire et qui fait aussi référence à une des histoires que l'on peut entendre dans la bande sonore, qui est la légende de la sirène et du dragon des monts d'Arry.
Comment j'ai découvert tous ces secrets de sirène ? Les secrets de sirène, elles sont là. Regardez, allez vous promener autour de l'église de Cisin. La première personne que vous voyez, c'est une sirène. Il y en a dans les quatre directions. Il y en a une après le clocher, Il y en a une sur la porte derrière.
Et donc, sur cette peinture, eh bien, sont représentées beaucoup de sirènes. Les enfants prennent grand plaisir à dessiner les sirènes. Mais pas que, aussi, on retrouve un petit peu toute la... Enfin, on retrouve une partie de la faune et de la flore du bord des eaux, qui a été représentée de façon plus naïve, du coup, très, très colorée, et avec aussi des petites références... Comme il faut s'amuser à retrouver le chat d'Alice au Pays des Merveilles, ou bien un personnage d'une auteure jeunesse que j'aime beaucoup, qui est Kitty Crozer. Donc là, on doit retrouver Annie Dulac, qui dort sur un géant, etc. Et donc là, c'est encore la prairie humide. Donc dans la prairie, on va retrouver la grenouille rousse, le crapaud accoucheur, où c'est le papa qui porte ses œufs. On va retrouver la reine des prés, une très bonne plante médicinale aussi et alimentaire, avec un parfum vraiment envoûtant, avec un petit goût d'amande. On peut cueillir les sommités fleuries, en faire des tisanes, mais aussi en mettre dans du lait pour faire des préparations culinaires.
Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, au fil de l'eau.
Au pied de notre rivière imaginaire, là, notre peinture imaginaire d'1,70 m, hein, au niveau du sol, il y a une installation de petits cailloux, de petites pierres. Alors c'est une proposition d'une enfant de 7 ans que j'ai retenue parce que je trouvais assez pertinent et je trouvais que ça avait sa place dans le reste, avec le reste de l'exposition, puisque les enfants, l'eau, la rivière... En fait, c'est aussi s'amuser avec les petits cailloux. C'est jeter les petits cailloux, faire des ricochets, s'amuser à les classer par taille ou par forme. Et je trouvais que ça avait sa place. Cette proposition d'enfant, j'avais envie de l'accueillir avec le reste.
Coucou, je suis là. Mais tu ne vois pas.
Coucou, je suis là.
Écoute-moi.
Coucou, écoute-moi. Écoute, cette histoire-là.
Tout ce qui est présenté ici, c'est vraiment un travail d'artisan, donc ça demande du temps et c'est exclusivement réalisé à la main. Donc, pour ce qui est des aquarelles, donc je dessine un dessin déjà bien précis. J'utilise la loupe pour vraiment ne rien omettre des particularités et puis des détails de l'espèce que j'ai choisi de représenter. J'utilise un pinceau pour coloriser avec de l'aquarelle et c'est de la technique sèche. Donc le papier reste sec, il n'est pas humidifié comme on a l'image de l'aquarelle avec les grands lavis. Donc ici, ce n'est pas du tout ça. J'utilise peu d'eau et pas mal de pigments. Et il s'agit au début de passer un lavis très clair sur les parties à coloriser et de monter progressivement la teinte, donc en plein de passages successifs de pinceaux, et c'est ça qui est très long en fait. Mais ce sont des dessins qui sont vivants et avec des couleurs très vives et de la matière.
Voilà. Et les autres, alors la poterie par exemple, comment vous faites ?
Alors la poterie, c'est pareil, ça a été façonné sans tour, vraiment à la main. Je ne suis pas potière, hein, donc l'usage du tour, c'est quand même tout un apprentissage. Mais moi, ça m'a énormément plu de mettre la main dans la terre, de modeler les choses. Je trouve qu'il y avait des réminiscences archaïques là, qui m'ont beaucoup parlé. Et donc c'est du grès. Le grès, quand il est frais, il a une teinte très grise, grise foncée. Ça a été, il y a eu un passage avec une engobe de porcelaine, donc il y a comme une peinture blanche finalement, ça a rendu blanc la poterie. Et là, je suis venue graver avec une pointe sèche des libellules, du jonc, une grenouille, de la jonc, etc. Et ensuite, donc là, il y a eu une première cuisson. Après ça, il y a eu le passage d'émo, donc ils sont venus coloriser les dessins et l'intérieur des coupelles. Et il y a eu une deuxième cuisson.
Avec un émail en plus, quoi. Enfin, ouais, non
Voilà, c'est ça. Après la première cuisson, il y a eu le passage d'émo qui sont venus coloriser. Et ensuite, il y a eu la deuxième cuisson qui est venue finaliser les poteries.
Ouais, d'accord. Et la vannerie, donc la vannerie, vous l'avez dit aussi, mais redites-le-nous. Ouais. Donc uniquement des matériaux d'ici, je suppose.
Oui, voilà. La barque là, d'1,50 m sur 60 de large à peu près, elle a été vannée avec principalement du saule et des branches de noisetier. Il y a peut-être un peu de bourdaine aussi.
C'est pareil, ça pousse au bord de l'eau, la Bourdaine ?
Pas spécialement, non. Là, j'ai parcouru la campagne et puis à la recherche de matériaux souples, plutôt. Je ne sais plus trop quoi dire sur la barque. La barque, elle est vraiment la symbolique aussi et la référence au livre de Bosco, puisque ces deux enfants voyagent sur la barque. Dans l'imaginaire de la rivière, je pense qu'on peut aussi penser à la barque et à la promenade au fil de l'eau. Et là, comme je l'ai dit précédemment, la barque ici, dans le cadre de l'exposition, elle nous invite vraiment à prendre le temps, comme moi-même peut-être j'ai pris le temps pour faire toutes ces réalisations. C'est un peu méditatif et c'est souvent ça que j'utilise d'ailleurs, à la fois pour dessiner. Donc il y a quelques petites vanneries sauvages, effectivement, et... c'est tressé avec du jonc frais, mais du lierre et aussi de la pervenche. On trouve également des petites barques uniquement en jonc qu'on peut faire très simplement avec les enfants. Et c'est vraiment comme l'art des contes qui est véhiculé avec la bande sonore qui fait partie de l'exposition. L'art du tressage, de la vannerie sauvage, d'utiliser ce qu'on a à portée de main dans la nature, ça fait aussi partie de notre transmission qui doit se perdurer, quoi.
Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, jolie coque. Pour un sou, j'ai un bateau, vogue, vogue, au fil de l'eau.
L'enfant et la rivière, l'exposition réalisée par Aurore Colliou. Vous pouvez la découvrir à la Maison de la Rivière de Cizun jusqu'au 15 novembre 2021.